Et du commun, bonsoir.
Bonsoir, Michel Reiterer répond à Micheline Calmiret ce soir. L'ambassadeur de l'Union européenne surpris des propos tenus par la conseillère fédérale. Elle a exprimé son agacement devant une Union européenne qui bloque les négociations et ne s'intéresserait qu'à l'argent quand il s'agit de la Suisse. Michael Reiterer à l'antenne dans quelques secondes. L'Union européenne qui a par ailleurs, il faut bien l'avouer, d'autres chats à fouetter en ce moment aussi. Les ministres des Finances sont à nouveau réunis aujourd'hui. On fera le point avec notre correspondant Alain Franco. Et voilà que les marchés s'agitent autour de l'Italie cette fois. L'instabilité politique italienne ferait fuir les investisseurs. Est-ce à tort ou à raison? L'économie et la politique italienne en question ce soir avec deux invités de la péninsule pour nous répondre. Et c'est dans une dizaine de minutes. Et au chapitre économique, on recevra également Mathieu Fleury pour une réaction à cet appel pour le moins exigeant de certains patrons de l'agroalimentaire, comme celui de Coop, qui demande aux Suisses de ne pas profiter du franc fort, ou plutôt de l'euro faible, pour faire leurs courses en France, mais bien d'acheter leur filet de bœuf en Suisse, et tant pis si c'est plus cher. Mathieu Fleury, de la Fédération des consommateurs, nous répond sur cet appel au patriotisme économique dans quelques minutes. La Tunisie post-Ben Ali se souvient avec émotion et admiration de l'un des très rares chefs d'État qui osa défendre la liberté d'expression devant le dictateur. Ce chef d'État, c'était Samuel Schmitt, oui, notre président de la Confédération, Samuel Schmitt, qui en 2005 a tenu ce mémorable discours. Alors pour le coup, il avait vraiment réussi à surprendre tout le monde. Le témoignage dans ce forum de l'ambassadeur suisse en Tunisie à l'époque, Peter de Graffenried, et l'hommage d'un Tunisien, également en ligne avec nous, le rédacteur en chef du quotidien, Lofti Touati. En Suisse, l'initiative UDC dite des familles sera déposée demain. Alors en politique, qui dit famille devrait penser PDC, le parti qui s'en réclame. Mais non, c'est bien l'UDC qui se veut aujourd'hui la plus offensive. Elle avance sans complète sur les plates-bandes du PDC. La réaction de Madame Famille au sein des démocrates chrétiens, Lucrezia Meyerschatz, elle est avec nous sur le coup des 18h25. On s'interrogera enfin sur le vrai rôle de la France dans le conflit libyen. La France en débat elle-même à l'interne demain. Le spécialiste Yves Boyer nous en décrypte les enjeux. On reviendra sur cet impressionnant accident sur le Tour de France hier qui pose la question de la présence des voitures sur le Tour. Il y en a bientôt plus que des vélos. Ce sera avec l'ancien directeur du Tour de Suisse, Auguste Girard. Et on termine en musique avec Alain Croubalian à propos de cet artiste culte, iconoclaste, touche à tout, Tom Waits. Une soirée lui est consacrée du côté de Montreux. Demain, il fera beau et chaud, de 29 à 32 degrés en pleine. Les premiers nuages orageux arrivent en deuxième partie de journée et envahiront tout le ciel mercredi. La météo complète de Carole Dubuis, c'est à la fin de ce forum.
Forum, Nathalie Ducommun, Tatiana Odo.
Ce sont des propos sévères et on en est peu habitué de la part de Micheline Calmiret qui a toujours vanté des relations très positives entre la Suisse et l'Union européenne. Mais cette fois, ce sont bien des critiques sévères qu'elle a formulées, c'était hier dans la presse alémanique. D'abord, la passivité de l'Union dans les négociations des bilatérales agace Micheline Calmiret. Au fond, l'Union est accusée de bloquer ces négociations, de nous rendre, et je la cite, « la vie dure inutilement et de manière injustifiée ». L'ambassadeur de l'Union européenne en Suisse, Michael Reiterer, était à l'instant en ligne avec nous. Il est surpris par les propos de la présidente de la Confédération.
Oui, je crois que nous étions surpris par la critique parce que nous sommes dans un processus de discussion et pour le moment, nous sommes plutôt dans une position de l'attente. De l'attente que le Conseil fédéral reçoit les expertises qu'il a demandées et je suppose basé sur les expertises, il va nous faire des propositions ou va entrer en discussion avec nous.
Michael Reiterer, on sait que l'Union européenne ne croit pas en l'avenir des bilatérales. Vous demandez à la Suisse de repenser ses relations avec l'Europe. Donc en attendant, on peut dire qu'à cet égard-là, Micheline Calmiret a raison, les relations sont mortes, sont au point mort, de votre côté aussi.
Non, parce que l'Union européenne n'a pas dit que le bilatéralisme est mort, point final. Nous avons toujours dit qu'il faut améliorer dans l'intérêt commun la gestion de tous les accords que nous avons conclus. Et nous avons défini avec nos partenaires suisses 4 problèmes et il faut résoudre les 4 problèmes pour qu'on puisse continuer à mieux gérer les traités existants et de conclure des traités dans l'avenir qui qui sont plus faciles à gérer, plus efficacement. Et je crois que ça, c'est dans l'intérêt de l'Union européenne, c'est dans l'intérêt de la Suisse, et surtout, c'est dans l'intérêt des opérateurs économiques qui veulent participer au marché intérieur de l'Union européenne.
Pour conclure, vous dites quatre problèmes. On n'abordera bien sûr pas les quatre. Il y en a un, et vous avez vous-même pointé le doigt dans un récent discours, c'est à la fin du mois de juin. C'est la question de la souveraineté. Vous aviez dit dans ce discours que aucun autre État au monde n'invoquait autant la souveraineté et que, selon vous, la souveraineté absolue n'existait pas et que cette souveraineté absolue qu'invoque la Suisse associée à sa démocratie directe rendait nos relations plutôt statiques et non pas dynamiques. Cette question de la souveraineté, qu'est-ce que vous attendez de la Suisse là-dessus ?
Non, nous avons défini ensemble les quatre problèmes qui, indirectement, sont liés à la souveraineté, comme vous voulez. Mm-hmm. Mais la participation dans le marché interne, et en anglais, on l'appelle « single market », ça veut dire avec des réglementations qui s'appliquent partout dans les marchés. Alors, ça veut dire une participation. Alors, il faut aussi accepter les règles, mais en même temps, on a aussi ouvert la possibilité de participer au decision shaping, mais pas de decision making. Alors, nous sommes très ouverts.
Peut-être que finalement, les propos de Micheline Calmiret, c'était la réponse de la bergère au berger à ce discours que vous avez tenu à Zurich. On peut le voir comme ça, peut-être.
Oh, c'est pas moi qui a fait l'interview, alors il faut aller à la source.
Voilà, Michael Reiterer, l'ambassadeur de l'Union européenne en Suisse. Stéphane Rossini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez entendu la réaction de l'ambassadeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette passe d'armes ? On le sent bien, là, il veut calmer les choses, mais il y a eu ces critiques assez sévères de Micheline Calmiret. Comment vous interprétez tout ça, vous ?
D'abord que Madame Calmiret assume pleinement son rôle, sa fonction de présidente de la Confédération, donc elle tente véritablement de défendre là les intérêts de la Suisse, notamment les intérêts de la place économique suisse. Ce sont ces intérêts-là qui ont prévalu à l'option politique fondamentale de la voie bilatérale. Maintenant, ce qu'on entend aussi, c'est qu'on est au cœur d'un processus de négociation. Donc quand on est dans un processus de négociation, on vient de l'entendre, des questions de souveraineté, des questions d'accès au marché, des questions de participation au processus de décision, eh bien ça, je veux dire qu'on a affaire ici aussi à l'expression de rapport de force. Je crois que c'est normal. D'un côté, du côté de l'Union européenne, on a peut-être envie de calmer un peu le jeu. Du côté de la Suisse, eh bien on doit faire valoir nos intérêts. C'est toute la difficulté, pour ne pas dire la contradiction, de la voie suisse. On savait, en choisissant l'option bilatérale, que c'était une option difficile. Il faut mener ces négociations. Moi, je salue l'action de Madame Calmiret. Et puis ensuite, eh bien, on doit véritablement, nous aussi, s'interroger à l'interne de ce pays, tout parti confondu, sur les avantages, les inconvénients de cette voie bilatérale. C'est une option qui a été choisie, il faut l'assumer, mais elle est difficile.
Oui, Stéphane Rossini, vice-président du Parti Socialiste, vous saluez l'action de votre ministre, évidemment. Vous me pointez le doigt, et puis on a senti Michael Reiterer très embarrassé sur cette question de la souveraineté. Or, c'est le nœud du problème. Et vous parlez d'un rapport de force. On voit mal comment ça peut se solder. On pourrait résumer les choses ainsi. L'Europe dit il faut que vous sacrifiez une part de votre souveraineté à la Suisse. Et la Suisse ne peut rien répondre, d'abord, parce que la souveraineté, c'est le peuple qui décide. Et vous et moi, on sait ce que le peuple dira là-dessus. Donc, comment ça va se solder ?
Mais je crois qu'il y a une situation, il y a un but final, qu'il y a un but de gagnant-gagnant qui est recherché. Ça fait partie de la négociation que d'avoir ces propos peut-être musclés, ces rapports de force. Moi, je reste tout à fait optimiste, tout en étant lucide. Les choses sont difficiles, mais du côté de l'Union européenne, on a affaire ici à des acteurs qui maîtrisent parfaitement les différents systèmes politiques, les différents systèmes économiques. Ils savent très très bien que la Suisse est demandeuse pour l'accès du marché, pour ses ces entreprises, mais on respecte aussi notre souveraineté. Je crois qu'il ne faudrait pas aujourd'hui voir du côté de l'Union européenne une espèce comme ça de rapport de force, d'être vraiment dominant jusqu'à marginaliser nos institutions. Je ne pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous, on doit aussi travailler à l'interne. Moi, j'ai ressenti le message de Mme Calmiret à la fois comme un message fort à l'adresse de l'Union européenne, mais aussi comme un message à notre adresse à l'intérieur de la Suisse pour dire attention, c'est difficile. On est dans une situation vraisemblablement plus fragilisée qu'il y a quelques années. On a dénoncé cette passivité, mais je crois qu'aujourd'hui, on doit continuer les discussions. Il serait, à mon avis, erroné de dire aujourd'hui, on va perdre ce rapport de force. On sait le résultat qui va sortir des urnes s'il devait y avoir un référendum, etc. Je crois que non, il faut être beaucoup plus offensif, beaucoup plus constructif.
Mais on a la marge de manœuvre.
Je pense qu'il y a un gagnant-gagnant. L'Union européenne a aussi un intérêt à collaborer avec nous. Je pense qu'on n'est pas devant le fait accompli, on n'est pas devant un mur. Il faut laisser un peu de temps. Il faut laisser un peu de temps au temps. Ce temps, il sera ponctué encore de quelques éclats, de quelques propos peut-être assez forts. Mais en laissant du temps au temps, eh bien, on trouvera le bon chemin. Je crois que ni l'Union européenne, ni la Suisse n'ont un intérêt à ce qu'il y ait une rupture.
Laisser du temps au temps, c'est une bonne expression suisse pour conclure ce dossier sur nos relations avec l'Union européenne. Je vous remercie, Stéphane Rossini, merci. Vice-président du Parti socialiste, d'avoir réagi. On ouvre un chapitre économique. D'abord avec vous, Mathieu Fleury. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie d'être avec nous en direct. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs. Mathieu Fleury, vous avez lu des propos, vous avez entendu certains patrons de l'agroalimentaire qui demandent aux Suisses de ne pas profiter du Francfort pour aller acheter moins cher en Europe, mais de consommer à la maison. De faire en fait un acte patriotique. Comment vous réagissez à ces demandes?
C'est plus qu'une demande, hein. C'était injurieux. Il a parlé de profiteurs en parlant de ces consommateurs qui, je dirais, qui votent avec leurs pieds, hein, en allant chercher l'avantage du Francfort là où il se trouve, c'est-à-dire à l'étranger. Mais je retourne le compliment, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce que nous demandons, nous, c'est pas les mêmes prix qu'en Europe. Nous reconnaissons qu'il faut continuer de pratiquer, notamment dans la vente, des salaires qui ne sont pas au niveau européen. Donc nous ne demandons pas cette baisse-là. Nous demandons simplement que ceux qui achètent aujourd'hui pour les vendre sur le marché suisse des produits qui sont commercialisés en euros nous restituent ce gain de 20% qu'ils réalisent sans aucun effort. C'est mécanique, c'est mathématique et on mélange sciemment deux concepts, c'est-à-dire on dit « Ah voilà, les profiteurs veulent les mêmes prix qu'en Europe et donc veulent sacrifier des emplois, etc. dans notre pays », alors qu'au final, nous demandons simplement la marge supplémentaire qui ne représente aucune plus-value, c'est-à-dire c'est simplement de l'argent qui coule dans les poches des intermédiaires, que cet argent-là, dû à l'effet de change, soit restitué aux consommateurs auxquels il appartient.
Oui, c'est le patron de la COP, hein, pour être très précis, qui a effectivement traité de profiteurs ces Suisses qui achetaient leur viande et leurs légumes à l'étranger. Ces marges supplémentaires, oui, c'est bien tout le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de transparence. Comment est-ce qu'on arrive à avoir accès, est-ce que vous, Mathieu Fleury, vous défendez les consommateurs, vous arrivez à avoir accès à la marge que touchent en trop, finalement, ces patrons d'agroalimentaire?
Alors, la marge, d'abord, c'est le secret le mieux gardé de l'économie suisse.
Hein, c'est bien le problème pour vous.
Et bien sûr. Par contre, la marge supplémentaire, elle est facile à calculer, c'est la différence du taux de change. Donc là, on laisse leur marge, qui est déjà une des plus élevées d'Europe pour les distributeurs suisses, on ne veut pas attaquer pour cette fois-ci cette marge-là, on dit simplement... La différence, ils ont aujourd'hui un gain de 20% par rapport à il y a une année, deux ans. Ce surplus-là, ce gain-là n'est justifié par aucune autre raison que le taux de change. Et c'est cette partie-là qu'on demande aujourd'hui qu'on nous restitue. Alors maintenant, le seul moyen qu'il y a d'avoir accès à cette information, c'est que les distributeurs jouent le jeu. Aujourd'hui, ils sont complices de ce manque de transparence. Alors moi, ce que je leur dis, c'est vrai que eux sont sous pression des consommateurs, parce que c'est là que nous achetons nos produits, mais qu'ils nous dénoncent en fait ceux qui refusent de leur rétrocéder cette marge, les fabricants ou les importateurs suisses qui, eux, agissent dans l'ombre, qu'ils les mettent en lumière et nous ferons pression sur ceux-ci pour qu'enfin ils jouent le jeu et arrêtent de pratiquer des prix qui sont uniquement calculés sur notre pouvoir d'achat, c'est-à-dire on nous exploite en partant simplement de l'idée que les consommateurs suisses ont un fort pouvoir d'achat, alors ils sont tout à fait capables de payer des prix qui sont complètement surfaits.
Ce concept de patriotisme économique, hein, où on encourage les consommateurs à consommer chez eux d'abord, il n'a pas toujours été dépeint comme le diable. Hein. Pendant le Cassis de Dijon notamment, on a pointé des produits étrangers à moindre prix, mais à la qualité moindre également. Là, vous êtes plus agacé par le concept qu'auparavant ?
Simplement, ce que je dis, c'est qu'à produit égal, hein, voilà, on a un produit européen que les consommateurs suisses apprécient, qui est déjà sur le marché, et on sait à quel point ils sont extrêmement présents. Hein, nos échanges avec le marché unique sont très intenses, donc il y a énormément de produits qui sont d'une qualité reconnue. Ces produits-là, auparavant, étaient achetés beaucoup plus cher à cause d'un taux de change qui était moins favorable. Aujourd'hui, il est possible pour les distributeurs ou pour les importateurs de les acheter moins cher. Pourquoi ? Leur seul réflexe est d'augmenter leur marge et je les mets en garde par rapport à ce patriotisme que je partage. Je ne suis pas un casseur d'emplois ou un casseur de place économique suisse, mais simplement continuer comme ça et la seule la seule mesure d'autodéfense du consommateur, c'est simplement de faire, lui, la démarche qu'on demande au distributeur en allant lui-même à l'étranger, ce qui est un acte extrêmement grave, c'est vrai, mais c'est un acte, je dirais, qui est lié à une fatigue. En attendant toujours cette rétrocession, les consommateurs n'en peuvent plus et c'est ça qui amène des comportements comme ceux-là qui ne sont pas ceux que notre pays peut souhaiter.
D'accord, on aura compris votre message. Il ne faut pas culpabiliser si on va acheter en France ou en Europe moins cher. Je vous remercie, Mathieu Fleury, d'être intervenu sur cette question. Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Le risque de contagion de la dette grecque à l'ensemble de la zone euro fait trembler l'Europe. Alors que les ministres des Finances sont réunis à Bruxelles pour chercher à enrayer la crise grecque, c'est l'Italie qui se retrouve dans le collimateur des marchés, Alain Franco.
Oui, on est devant quelque chose de gros qui concerne la stabilité de toute la zone euro, a déclaré Elena Salgado, un aveu de la ministre espagnole des Finances qui en dit long. Il faut résoudre la crise grecque pour enrayer les risques de contagion. Mais les négociations autour du refinancement de la Grèce par le secteur privé piétinent. Le plan de lui faire racheter une partie de sa dette en contrepartie de garanties semble avoir fait long feu, notamment sous la pression des agences de notation. Du coup, l'Allemagne relance sa proposition d'un échange d'obligations contre une maturité à long terme pour donner le temps aux réformes de faire leur effet. Tandis que les Pays-Bas, eux, plaident carrément pour laisser la Grèce aller en défaut sélectif de paiement. Tous ces atermoiements font grimper la nervosité des marchés qui lorgnent vers l'Italie, un poids lourd de l'euro, qui a une dette à 120% du PIB, une croissance atone et qui tarde à adopter un plan de rigueur de 40 milliards d'euros. Le coût de financement de l'Italie a atteint un record. Les bourses de Milan, de Paris, de Madrid, de Lisbonne, un autre malade de l'euro, sont en berne. Raison pour laquelle Angela Merkel a appelé Silvio Berlusconi pour qu'il se presse. Alors ce soir, les ministres de l'Eurogroupe doivent absolument avancer, quitte à se retrouver bientôt pour enfin finaliser une solution lors d'un conseil extraordinaire.
Alain Franco en direct de Bruxelles. Une éventuelle contagion de la crise de la dette à l'Italie provoque la panique sur les marchés. La bourse de Milan qui chute, mais qu'est-ce qui est sanctionné au fond ? Eh bien, on va en parler avec nos deux invités. Fabrizio Quirighetti, tout d'abord, chef économiste à la Banque 6. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce qu'on a raison de douter au fond de l'Italie ? Est-ce qu'elle est vraiment dans la même situation que la Grèce, le Portugal, l'Irlande ?
Alors, tous les pays vous diront qu'ils ne se ressemblent pas les uns les autres, puisque c'était le grand leitmotiv du Portugal et de l'Irlande de dire qu'ils étaient différents de la Grèce. En fait, c'est vrai qu'ils sont tous différents, mais ils partagent, disons, des défauts. Et les deux principaux défauts de l'Italie aujourd'hui, je dirais même les trois, c'est un d'avoir une dette très élevé par rapport à son économie. Vous l'avez souligné tout à l'heure, 120% de dette par rapport à son PIB. C'est dans les pays européens parmi les pires, juste après la Grèce. Donc là, il y a une similitude avec la Grèce. Ensuite, il y a une similitude avec le Portugal, je dirais, c'est d'avoir structurellement depuis plusieurs années une croissance très très faible. Et donc là, les marchés s'inquiètent. Vous avez de la dette et vous n'avez pas de croissance du revenu. Donc comment vous allez payer la dette ? Et puis le troisième point qui s'est déclenché tout récemment, c'est une crise politique qui, là, inquiète les marchés parce que même si on a de la bonne volonté, eh bien, il va falloir déjà se mettre d'accord au sein de l'Italie pour pouvoir avancer. Et c'est ça que les marchés ont sanctionné ces 2-3 derniers jours.
Alors avec nous également Claudio Micheloni, sénateur italien de centre-gauche du Parti démocrate. Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui est sanctionné au fond finalement, alors, comme le disait Fabrizio Chirighetti, c'est l'économie ou c'est la politique ?
Je crois que l'économiste a raison. Ce sont les, sur ces trois points, je suis d'accord avec lui, c'est l'ensemble qui est sanctionné. Par contre, où je ne partage pas ce qui a été dit, c'est que nous tardons à prendre les mesures en Italie. Donc c'est justement aujourd'hui au Sénat, nous sommes en début d'un débat sur une manœuvre économique de près de 50 milliards. Et ce débat a des temps très brefs, donc les décisions vont être prises. Je me permettrai de considérations sur la dette italienne est la plus élevée, mais elle a quand même une spécificité, c'est que près de la moitié de cette dette est dans les mains de citoyens et d'épargneurs italiens. Donc elle est quelque part un peu plus à l'abri des attaques de la spéculation, mais on a bien vu ce qui s'est passé aujourd'hui sur Milan. La croissance faible, ça c'est notre problème et c'est le débat qui est en cours depuis aujourd'hui au Sénat de la République pour transformer cette manœuvre économique et pour la rendre compatible avec un projet de croissance. Parce que celle qui nous a été présentée par le gouvernement, elle va, à notre avis, provoquer un ultérieur ralentissement de la croissance. Sur le problème de la crise politique, alors ça, je crois que c'est le problème majeur, mais c'est aussi un problème qui peut trouver une solution. C'est une décision de notre groupe au Sénat d'il y a quelques minutes, je vous le donne là, c'est une petite nouvelle. Nous renonçons à déposer des amendements individuels, les sénateurs, et nous n'allons proposer que des amendements de groupe pour modifier cette manœuvre économique et intervenir sur les problèmes structurels. Les coûts de la politique, les coûts de l'administration, la libéralisation des professions et des services, ce sont toutes des opérations que nous avions commencé avec le gouvernement Prodi qui ont été bloquées. Nous allons maintenant, ça c'est un geste politique, un signal politique très fort que nous avons décidé il y a quelques minutes, et nous allons reprendre les propositions que nous avions dans le gouvernement Prodi. Il ne faut pas oublier que dans les 2 ans où nous avons gouverné, la dette était descendue à 104%. Elle est remontée à 120%. La crise y est pour beaucoup, certainement, mais ce n'est pas seulement la faute de la crise.
Alors, on va donner la parole à Fabrizio Chirighetti. Effectivement, vous n'êtes pas d'accord, vous ?
Non, la dette était déjà à 120% avant la crise. Ce qui s'est passé, c'est que l'Italie était déjà dans tous les radars, parce qu'en fait, d'un point de vue des finances publiques, c'était un des moins bons élèves de la zone à cause de cette dette. Mais en termes, c'est vrai, là je vous rejoins, en termes de dynamique, et c'était là justement aussi pourquoi les marchés attaquent ces 2 derniers jours l'Italie, c'est parce que vous aviez probablement le meilleur pilote au monde des finances, c'est-à-dire M. Tremonti. Et aujourd'hui, il y a des risques que M. Tremonti ne soit plus à la barre ces prochains mois, et le marché s'inquiète. Donc c'est, pour faire une analogie avec le sport automobile qui est beaucoup apprécié de l'autre côté des Alpes, sachant que la route va être particulièrement sinueuse et que la piste va être difficile et que c'est pas gagné d'avance, je préfère avoir le meilleur pilote du monde qu'un pilote que je connais pas.
Mais Fabrizio Chirighetti, ces mesures que vient de citer Monsieur Micheloni, est-ce que ça c'est pas de nature, ces mesures politiques, donc est-ce que c'est pas de nature à rassurer les marchés?
Oui, c'est vrai, ça devrait être de nature à rassurer les marchés. Mais vous voyez, quand vous avez 120% de dette sur le PIB, la marge de manœuvre, elle est extrêmement limitée. C'est-à-dire que le moindre faux pas peut très vite vous entraîner sur cette pente. Et comme je l'ai dit plusieurs fois à votre antenne, c'est toute une histoire de confiance. Donc, crédit, il y a credere, c'est de l'italien d'ailleurs, et ça veut dire croire. Ça, c'est un point. Et puis, vous avez quelque chose qui est auto-réalisant. C'est-à-dire que si pour l'Italie, vous lui appliquez un taux d'intérêt de 2% sur sa dette plutôt que de 7%, eh bien, ça change beaucoup les dynamiques à l'avenir. Pour faire un petit calcul, parce que vous voyez, on parle d'un plan d'économie de 40 à 50 milliards. Il faut savoir que la dette italienne, c'est 1600 milliards. Donc, en 2 jours, la dette italienne, le service de la dette a augmenté de 1%. C'est-à-dire que si les taux devaient rester là, au niveau actuel, ce qui s'est passé en 2 jours, ça a déjà troué le déficit à l'avenir cumulé par année de l'ordre de 16 milliards. Donc les choses vont très vite et ça peut devenir autoréalisant, c'est-à-dire que si à l'Italie demain les taux sont à 10%, eh ben c'est clair qu'elle va être dans une mauvaise posture.
Claudio Micheloni, c'est Berlusconi finalement qui est responsable hein, de cette méfiance.
Alors, de la crise politique, je pense qu'il est responsable. Mais c'est vrai ce que vient de dire l'économiste d'un point de vue purement théorique. L'Italie est aussi un pays qui est capable de relancer sa croissance. Et si on ne fait pas une politique pour relancer cette croissance, il est évident qu'on est dans une phase statique, comme vous l'avez décrit, et à ce moment-là, 1%, ça suffit pour annuler toutes les manœuvres. Donc nous pensons au contraire que toute une série de choses que nous avions faites, qu'il faut reprendre, la réforme du monde du travail, la libéralisation des entreprises, il y a énormément de travail à faire pour renouveler les structures de notre pays. Ce travail est faisable dans des temps relativement courts, et il faut résoudre la crise politique. Alors la crise politique, maintenant là je ne peux pas faire une prévision, je peux vous parler d'un souhait que j'ai. Il serait très salutaire pour l'Italie qu'on ait une démission de ce gouvernement et qu'on crée un gouvernement de large coalition, chose que nous proposons depuis longtemps. Un petit exemple, à Milan, c'est une chose qui s'est fait. Le maire de gauche de Milan a nommé un économiste de l'UDC comme responsable de son dicastère. On a une volonté, il y a une volonté forte pour renouveler cette politique, mais il y a un obstacle qui est gros comme la chaîne des Alpes, qui s'appelle Berlusconi. Et il faudrait trouver une solution politique, et c'est dans ce sens qu'il faut travailler, pour enlever cet obstacle sans aller à des élections anticipées, parce qu'alors là, après, la confiance va complètement disparaître, et ça peut être dramatique pour notre pays. Mais je répète, c'est vrai que chaque pays a des histoires différentes, des réalités différentes. On ne peut pas assimiler la situation de l'Italie aujourd'hui, de l'économie italienne aujourd'hui, à celle d'autres pays comme on l'a fait avant.
Alors,
je pense que ce qu'on vient de décider, c'est un signal, c'est pas banal pour que le parti d'opposition qui pourrait profiter de cette situation pour essayer de créer une crise de gouvernement, nous avons pris une décision de grande responsabilité qui est un signal très fort. C'est que nous sommes prêts à regouverner ce pays, à le remettre sur le chemin d'une économie saine.
Claudio Micheloni, on va juste laisser conclure Fabrizio Chirighetti.
Voilà, sur une note optimiste, comme le soulève justement monsieur, le plus gros handicap de l'Italie aujourd'hui, c'est un déficit de crédibilité. Parce qu'il y a plein de fondamentaux, on a tiré sur l'ambulance, mais là j'aimerais quand même souligner 2-3 points très forts de l'Italie. C'est que même si la dette publique est très élevée, les ménages ont la meilleure situation dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont moins de dettes. Il n'y a pas eu de crise immobilière en Italie et l'Italie du Nord est parmi les régions les plus dynamiques de l'Europe. Voilà.
Fabrizio Chirighetti, merci d'avoir été avec nous. Claudio Micheloni également, bonne soirée.
Merci à vous.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Vevey-Martigny, un bouchon s'est formé à la jonction de Montreux en raison du festival de Montreux Jazz. Faites preuve de prudence à l'approche de cette zone. L'UDC déposera donc son initiative populaire sur la famille. Demain, le texte demande l'introduction de déductions fiscales pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants. Pour l'UDC, il en va de l'égalité de traitement entre les familles. Lucrezia Meyerschatz, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes conseillère nationale PDC. Vous êtes la madame fiscalité des familles au PDC. Quand vous entendez ça, égalité de traitement entre les familles, défiscalisation, vous signez ce que propose l'UDC ?
Non, je ne signe pas, bien sûr que non, mais je me réjouis du fait que l'UDC découvre enfin la famille et nous soutiendra dans toutes les démarches que nous entreprenons toujours et depuis des décennies en faveur des familles.
Oh, rien n'est moins sûr, Lucrezia Meyerschatz. Dites-nous, qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette proposition de l'UDC ?
Alors écoutez, en général, c'est à revenu égal, fiscalité égale. Donc c'est déjà la proposition de l'UDC bafoue ce principe. C'est la raison pour laquelle le Parlement, ni le Conseil des États, ni le Conseil national a voulu de cette proposition, raison pour laquelle, lors du débat sur le rabais fiscal que le PDC a promu pour la fiscalité, L'UDC s'est opposée et après a lancé son initiative. Elle n'a pas eu le courage du référendum, donc elle a lancé l'initiative.
Au fond, ce que vous nous dites, hein, sans rentrer dans le détail technique de la fiscalité, c'est que ce sont surtout les gros revenus qui vont être privilégiés, qui pourront déduire le plus. Le PDC, vous récoltez aussi des signatures sur la défiscalisation, notamment des allocations familiales. Vous êtes un peu en retard là. Il aurait fallu peut-être déposer les signatures avant l'UDC, non ?
Non, pas du tout. Nous avons lancé une initiative parlementaire qui portait d'ailleurs mon nom. En 2007 déjà, certains cantons nous ont suivis et malheureusement, le Conseil national n'a pas reçu le soutien de l'UDC pour faire passer cette initiative, cette idée de la défiscalisation des allocations familiales. On était, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes saisis de l'initiative populaire, parce que normalement, nous essayons nous-mêmes de promouvoir un débat au niveau du Parlement, et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque le Parlement nous refuse de promouvoir notre politique familiale, que nous référons à l'initiative populaire. Donc, pour nous, c'est en fait une ultime mesure. Et je crois que c'est intéressant maintenant de le faire pour vraiment montrer que la défiscalisation des allocations familiales, ça rapporte surtout à la classe moyenne. Et c'est en fait l'enjeu que nous voulons poursuivre. Nous voulons soutenir la classe moyenne, raison pour laquelle nous avons introduit le rabais fiscal, c'est-à-dire 250 francs de déduction sur le montant d'impôt que vous payez par enfant et par année. C'est nettement plus important qu'une déduction fiscale que vous pouvez faire sur votre formulaire de fiscalité, puisque à salaire élevé, vous profitez nettement plus de ces déductions-là.
Le Chrétien Meyerschatz, en termes de stratégie, et puis évidemment en ligne de mire les élections fédérales qui s'approchent, quand on connaît l'efficacité tout de même de l'UDC sur le terrain, surtout sur le terrain de l'initiative populaire, quand on voit qu'elle fait des propositions en matière d'école, maintenant en matière de famille, on est vraiment sur vos plates-bandes, c'est inquiétant. Quelle réaction à long terme pour le PDC ?
Écoutez, je crois qu'il s'agit simplement d'informer le citoyen et la citoyenne des conséquences de ces initiatives. Et c'est notre devoir.
Elle est intéressante. Hein. Non, on dit au maire, vous serez défiscalisé pour le travail que vous faites avec vos enfants à la maison.
Ah ben voilà. Mais seulement celles qui restent à la maison. Et c'est là l'enjeu. En fait, on a 75% des mamans ont une activité professionnelle, les unes à 20%, les autres à 30%. Et durant le temps de la garde des enfants, durant le 20%, cet enfant est en général confié soit aux grands-parents ou bien à des voisins et des voisines. Ces personnes-là ne pourront, selon le texte de l'initiative, pas déduire de montant, puisqu'ils confient la garde de leurs enfants à une tierce personne.
Donc vous ne vous sentez pas menacée, Lucrétia Meyerschatz ?
Non, écoutez, je crois qu'il s'agit simplement d'informer la population. Nous n'avons rien contre d'augmenter les déductions pour tous les enfants. Au contraire, il s'agit vraiment de soutenir les familles, surtout de la classe moyenne. L'objectif de l'UDC est d'un soutien aux familles aisées. Et ça ne peut pas être l'objectif du PDC qui poursuit une politique pour la classe moyenne, sachant que 72% de tous les enfants vivent dans cette classe moyenne.
Lucrétia Meyerschatz, je vous remercie de nous avoir rejoint en direct dans Forum. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Et je précise que le 8-15 de demain sera consacré à cette initiative. Débat entre Gilbert Demont, UDC, et Sylvie Perrin-Jacquet du PLR.
L'été n'est pas synonyme de pause pour tout le monde. Les états-majors de parti préparent non seulement les élections de cet automne, mais aussi celles du Conseil fédéral en décembre. Et en ce qui concerne l'UDC, la question est de savoir qui va-t-elle lancer dans la course pour tenter de retrouver un deuxième siège au Conseil fédéral. Et là, Vincent Bourquin, un homme est de plus en plus pressenti, c'est Roland Héberlé.
Roland Héberlé au Conseil fédéral, ça vous rappelle quelque chose? Et oui, âgé aujourd'hui de 57 ans, celui qui a été durant 12 ans conseiller d'État turgovien a déjà été candidat au Conseil fédéral. C'était en 2000 pour la succession d'Adolphe Ogui. Il était d'ailleurs l'un des deux candidats officiels de l'UDC avec la zurichoise Rita Fourrer. Mais les chambres fédérales lui avaient alors préféré Samuel Schmid.
Ah oui, c'était il y a 11 ans. Entre-temps, qu'est devenu Roland Héberlé?
Il était conseiller d'État jusqu'en 2006, puis à la tête d'une grande entreprise fabriquant des produits abrasifs. Et pour cet automne, il est candidat au Conseil des États dans le canton de Turgovie et ses chances d'être élu sont grandes.
À peine conseiller aux États, il pourrait donc être candidat au conseil fédéral.
Oui, au sein de l'UDC, beaucoup considèrent Roland Eberle comme le candidat idéal. Il est clairement dans la ligne du parti, mais c'est aussi un homme d'exécutif qui sait faire des compromis et qui serait donc éligible pour les autres partis. Sans oublier que de mère vaudoise, il maîtrise très bien le français.
Ah, mais alors, ce n'est pas Jean-François Rime qui sera le candidat de l'UDC ?
C'est vrai, le Fribourgeois est clairement sur les rangs et ses très bons scores obtenus lors des successions de Hans-Rudolf Merz et Moritz Leuenberger lui donnent une certaine légitimité pour être candidat. Mais au sein de l'UDC, de nombreux parlementaires ne veulent pas être représentés par un roman. Des membres de la direction de l'UDC partagent d'ailleurs cet avis.
Et qu'en pensent les UDC romans ?
Ils ne cachent pas une certaine inquiétude. Ils sont conscients que Roland Eberle pourrait être préféré à Jean-François Rime, voire à Guy Parmelin, dont le nom circule aussi. Mais pour Yvan Perrin, le vice-président du parti, il faut d'abord attendre les résultats des élections. Il y aura pour lui un match dans le match. Si l'UDC progresse en Suisse romande et stagne ou régresse en Suisse alémanique, le deuxième siège de l'UDC devrait alors être latin. Et selon Yvan Perrin, si cela n'est pas respecté, il s'attend alors à de fortes tensions au sein du parti.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un ticket composé de Roland Eberle, de Jean-François Rime ?
Alors pas pour l'heure, actuellement l'UDC ne devrait pas présenter un ticket, mais un seul candidat dont l'objectif sera très clair, détrôner Evelyne Widmer-Schlumpf.
Vincent Bourquin en direct de Berne.
C'était en 2005, souvenez-vous, le printemps arabe n'avait pas fait dégager, puisque c'est l'expression consacrée, dégager le président Ben Ali du pouvoir. Il régnait d'une main de fer sur la Tunisie. Et notre président de la Confédération, à l'époque, en visite officielle et devant Ben Ali, tient un discours mémorable. Extrait.
Parmi les individus encore interdits d'accès aux moyens d'information, nombreux le sont pour des raisons politiques. Il n'est pas acceptable, et je le dis sans détour, que l'Organisation des Nations Unies compte encore parmi ses membres des États qui emprisonnent des citoyens au seul motif qu'elles ont critiqué leur gouvernement et leurs autorités sur Internet ou dans la presse. Toute société du savoir respecte l'indépendance de ses médias.
Et voilà la foule qui applaudit. Samuel Schmitt, président de la Confédération en 2005, c'était à l'occasion du sommet des Nations Unies sur la société de l'information qui était organisé à Tunis. Peter de Graffenried, bonsoir.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'ancien ambassadeur suisse qui était en poste à l'époque à Tunis. Qu'est-ce que ça réveille en vous d'entendre ce discours ?
Écoutez, c'est des souvenirs qui me paraissent assez un peu lointains, puisque c'était vraiment une occasion assez mémorable. Donc la délégation suisse, lorsque M. Schmitt avait atterri en Tunisie, a peaufiné son texte qu'il avait reçu de Berne pour essayer d'être aussi élégant que possible, mais aussi clair que possible également, c'est-à-dire pour dire ce que nous avions à dire, mais sans mentionner la Tunisie directement. Donc nous l'avons un peu noyé dans un petit groupe d'autres pays qui étaient des mauvais élèves. Donc ça réveille pour moi, en moi, des souvenirs assez concrets, puisque nous étions, toute la délégation, assez sûrs et assez contents de notre coup, et nous étions surtout soulagés que M. Schmitt prononce les phrases clés que vous venez de nous jouer, prononce les phrases clés de manière très lente, claire et avec les accents là où il fallait, afin que tout le monde, vraiment tout le monde, comprenne ce que nous avions dans la tête.
Oui, Samuel Schmitt, conseiller fédéral UDC, même si l'histoire l'a montré, hein, il était très en porte-à-faux avec son parti. C'est vrai qu'il aurait pu, parce qu'on précisa, vous le disiez à l'instant, le texte venait de Berne, ce sont les services de votre département, des affaires étrangères, qu'il avait rédigé, j'imagine avec votre aval, vous y avez participé, il aurait pu, au fond, dire « Non, ça c'est trop ambitieux, je renonce à lire ce texte ».
Écoutez, non, il n'en était pas, c'était pas le cas du tout. Il me demandait s'il pouvait dire cela. Il avait peut-être un tout petit souci au départ, mais lorsque nous avons formulé le texte dans sa mouture finale, qui était assez élégante, mais quand même claire, il était lui-même tout à fait d'accord de la prononcer, et puis il s'est dit oui, comme ça, on peut le dire.
Et quelle a été la réaction des Tunisiens? Alors, du côté officiel, Ben Ali était là, était devant lui. Comment
Bien
il a
sûr.
Réagi?
Monsieur Schmid, en tant que président de la Confédération, était coprésident avec Monsieur Ben Ali, président de la Tunisie, de ce sommet. Donc, il était assis à la table présidentielle, donc à la table des dirigeants de cette conférence, à côté de Monsieur Ben Ali. Mais il s'est levé pour aller au pupitre prononcer son allocution. Donc, évidemment, les autorités, le premier rang de cette assemblée très nombreuse, n'a pas réagi du tout. Évidemment pas applaudi à rien du tout, alors que les autres participants, les autres délégations qui par la suite nous félicitaient, étaient toutes ravies que quelqu'un ait le courage de prononcer des mots assez clairs et assez nets. Le régime par la suite, évidemment, il voulait s'assurer que la population tunisienne n'entende que des signaux positifs de ce sommet. La Tunisie était extrêmement fière d'être le pays hôte de ce sommet parce que c'était pas évident, et tout le monde n'était pas content de ce choix. Il voulait éviter que museler un peu la population qui écoute la radio, qui regarde la télévision, et c'est pour ça qu'ils ont interrompu, puisque la retransmission avait un décalage de quelques 2 minutes. Ils ont donc
interrompu,
exactement. Ils ont coupé, si vous voulez, les deux phrases.
Je dois aussi le faire, malheureusement, Peter de Gravenried. Vous restez, mais il y a juste une urgence sur la route.
Oui.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Martigny-Vevey, on signale la présence d'un bidon en plastique à l'approche du relais du Grand Saint-Bernard en direction de Vevey. Soyez attentifs dans ce secteur. Voilà, pardonnez-moi, c'est une obligation de donner ces nouvelles de la route.
Bien
Peter
sûr.
De Gravenried, vous avez dû payer après, parce que vous êtes resté en place, évidemment, vous êtes l'ambassadeur, on vous a convoqué, on vous a tiré les oreilles.
Écoutez, non, pas tout de suite, c'est en deux temps. Dans un premier temps, s'agissant quand même d'un président d'un pays ami en principe, disons, et co-président de la conférence, les autorités n'ont pas pu officiellement en vouloir à Monsieur Schmid, il le respectait en tant que chef d'État. Et aussi quand Monsieur Leuenberg, qui a pris la suite de la présidence de cette conférence, de la coprésidence, lorsque M. Schmid était déjà parti, M. Leuenberg a aussi tenu quelques propos pas très sympathiques pour les oreilles tunisiennes vis-à-vis de la presse. Ils n'ont donc pas tenu rigueur, ils ont aussi fait semblant, un peu, ils ont fait la sourde oreille, ils ont fait semblant avec une sorte de politique de l'autruche, de ne pas se sentir visés par les propos, puisque le pays Tunisie n'a pas été, n'est-ce pas, cité, puisqu'on parlait simplement de pays membres des Nations Unies. Donc, dans un premier temps, il n'y a pas eu de réaction, j'ai pas été cité. Cela ne m'étonnait pas vraiment, parce que quand on est un régime comme celui de Tunis, il faut garder la face, il faut faire semblant de ne pas du tout être visé, puisqu'on n'a rien à se reprocher. Donc, il n'y a pas eu de réaction immédiate qui soit, disons, qui vaille la peine d'être mentionné. Il y a eu des réactions par la suite, mais ça, c'était une autre chose. C'était que 2-3 semaines après la fin de cette conférence, que les autorités tunisiennes dont ils ont fait énormément de propagande, n'est-ce pas, vis-à-vis de leur population, comme quoi ils étaient capables de mener à bien un tel sommet. 2-3 semaines après la clôture de ce sommet, Madame Calmiret, chef du département fédéral des affaires étrangères, a reçu, je dois l'avouer, à l'insu de tout le monde et encore plus de son ambassadeur en Tunisie, elle a reçu 5 grévistes de la faim qui se réclamaient de l'opposition, mais mis à part un cas qui était un peu connu et que je connaissais personnellement aussi, les autres étaient des opportunistes qui ont fait la grève de la faim très médiatisée pendant le sommet. Elle a été priée, Madame Calmiret a été priée de recevoir ces gens par une ONG suisse, à laquelle ces ex-grévistes de la faim, ils l'avaient arrêté bien sûr, avaient demandé une audience. Elle les a reçus dans son bureau et moi-même j'ai été informé 3 minutes avant que ces 5 messieurs n'entrent dans son bureau de ce qui allait se passer à Berne. J'ai immédiatement été convoqué par le ministre des Affaires étrangères qui m'a tenu des propos, comme le maître d'école qui gronde sévèrement celui qui a volé une pomme. Donc j'ai été vraiment assez malmené par le ministre. Et donc c'était
sur les risques du métier de diplomate, Peter de
C'était, écoutez, je crois qu'ils ont attendu, ils ont simplement préféré ne pas réagir à la suite du passage de M. Schmid et de M. Leinberg. Ils se sont dit, on attend la prochaine occasion, et puis c'est là qu'on interviendra. Et le fait qu'on reçoive ces opposants, soi-disant, à haut niveau, dans le bureau d'un ministre des Affaires étrangères, ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays, où ils ont été reçus à un niveau beaucoup plus inférieur, ça les a en fait beaucoup plus vexés, et c'est là que vraiment
ils ont
retiré leur ambassadeur en Suisse, qui est resté 5 ans, l'ambassade est restée vacante pendant 5 ans, donc là ils ont pris des décisions qui étaient donc assez fortes vis-à-vis de la Suisse.
Oui, Peter de Graffenried, ancien ambassadeur suisse à Tunis. Vous savez que la presse tunisienne aujourd'hui se souvient avec une certaine admiration de ce discours de Samuel Schmid. Restez avec nous parce que à présent on va écouter un témoin tunisien, Tatiana Odo.
Il s'agit de Lotfi Touati, qui est rédacteur en chef adjoint du journal Le Quotidien. Bonsoir. Vous êtes en direct de Tunis. Vous avez vécu cet événement. Vous étiez sur place, vous avez vu le discours, vous étiez dans la salle. Vous avez réalisé sur le moment le courage de ce texte. Vous avez compris que ça visait aussi la Tunisie. Vous l'avez réalisé, ça?
Ah oui, c'était clair. Ce jour-là, on était nombreux à ce discours. Et le journaliste était assis derrière, donc dans les dernières lignes de la salle. Et puis tout d'un coup, donc on a entendu les propos courageux de M. Schmid qui disait qu'il n'est pas acceptable que l'ONU compte parmi ses membres des États qui emprisonnent des citoyens au seul motif qu'elles ont critiqué le gouvernement. Et puis, donc, au début, on ne se rendait pas compte que ça a été coupé, mais tout de suite après, on nous a appelé pour assister à une petite conférence de presse de M. Schmid. Elle a été organisée dans une petite salle au salon. C'était une petite salle de 5 mètres carrés et pas plus. C'était un peu convivial. Et c'est le rédacteur en chef du journal Al Mawqif, M. Rachid Khsana, qui a dit donc à M. Schmid, « Monsieur Schmid, vous voulez être censuré, est-ce que vous le savez ?» Donc, et à ce moment, M. Schmid ne savait pas qu'il a été censuré, mais il n'a pas répondu à la question. Donc il a appris à ce moment qu'il a été censuré par la télévision tunisienne. Et je me rappelle aussi que le discours, donc comme Monsieur Schmid a terminé le discours, Ben Ali a dit, c'est un grand discours, Monsieur le Président. Donc parce que Ben Ali ne
pouvait pas dire autre chose.
Non, elle ne peut pas dire autre chose. Et ce n'est pas quelqu'un de bavard.
D'accord.
Donc il ne parle pas bien le français. Donc il a dit un grand discours. Voilà, c'est tout. Donc voilà.
Très bien, Lotfi Touati. Merci d'avoir été avec nous quelques instants.
Merci beaucoup.
Peter de Graffenried, juste le mot de la conclusion, c'est assez rare comme ça qu'un pays se souvienne d'une action de la Suisse, d'un discours fort, c'est agréable.
Oui, c'est assez rare comme je vous disais déjà, puisque la Suisse n'a pas eu une cote particulièrement élevée en Tunisie, si ce n'est au niveau de la population qui rêvait d'aller en Suisse pour divers motifs, mais disons, les autorités ont toujours été un peu suspects vis-à-vis de nous, dans ce sens qu'il y a déjà eu une histoire qui a beaucoup blessé le président, lorsque en 1995 il a été hué à Genève lorsqu'il participait à une conférence de l'OIT, ça lui est resté sur l'estomac et il a retiré également à cette époque-là son ambassadeur pendant 5 ans.
Ouais,
c'était
Peter
la seule manière.
Oui, effectivement, l'histoire des relations entre la Tunisie et la Suisse, on pourrait vous écouter des heures, Peter de Graffenried, vous incarnez cette mémoire-là, vous étiez ambassadeur suisse à Tunis. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage ce soir.
Je vous en prie, madame.
Bonne soirée. La France est-elle en train de négocier avec Muammar Kadhafi, à en croire son deuxième fils, Saïf al-Islam, dans un entretien publié aujourd'hui par un quotidien algérien? Ce serait le cas, mais vu de France, eh bien c'est un autre son de cloche qui résonne. Yves Boyer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Qu'est-ce qui se passe exactement actuellement entre la France et Muammar Kadhafi via un de ses fils? Est-ce qu'il y a de vraies négociations? Est-ce qu'on peut croire ce qui est dit?
Écoutez, je crois que de la part de Kadhafi et de son clan familial, nous sommes habitués aux mensonges. Donc, depuis un certain temps, ils essayent de décrire la situation en Libye comme une situation où finalement rien ne se passe, alors que de fait, sur le terrain, on voit des rebelles qui arrivent dans la grande banlieue de Tripoli. À la fois, ils arrivent du sud-ouest, et puis ils arrivent également le long de la ligne côtière. Donc, on se rapproche du moment où il faudra bien trouver une solution politique à cet engagement de la coalition internationale. Et évidemment, les gens qui sont proches de Kadhafi cherchent à trouver une solution honorable. Mais ça dépend à la fois de la communauté internationale, ça dépend aussi beaucoup des Libyens, notamment du Conseil national de transition.
Demain, on sait qu'il y aura un débat au Parlement, justement en France, sur cet engagement. Est-ce que c'est une coïncidence ?
Non, ça résulte d'une modification de la Constitution et de son article 35 qui prévoit que 4 mois après l'engagement de forces françaises sur des théâtres extérieurs, il est nécessaire que l'exécutif, le gouvernement, explique sa politique. Donc tout ça rentre dans le cadre d'une procédure constitutionnelle, certes récente, mais qui impose en effet 4 mois après l'ouverture des hostilités, eh bien d'en faire part ou de donner une situation claire à la fois aux Français, à la représentation nationale, à l'Assemblée, au Sénat.
On a vu que le président Nicolas Sarkozy a donné lui-même des signes d'impatience dans cette guerre, dans cette intervention qui dure visiblement trop à son goût.
Ben écoutez, ça dure parce que on se lie un petit peu les mains, on fait des opérations militaires aériennes avec un bras lié dans le dos, c'est-à-dire la coalition est extrêmement attentive à minimiser au maximum les dommages collatéraux, donc ce qu'on appelle improprement les bavures. Donc ça limite évidemment le rythme des opérations. De la même façon, il faut bien voir qu'aujourd'hui les forces aériennes qui sont actives en Libye, c'est essentiellement l'armée de l'air française, la marine française et la Royal Air Force et les autres associés à la coalition sont de plus en plus marginaux, si vous voulez.
Laurent Boyer, merci d'avoir été avec nous. Quelques instants, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonne soirée.
Merci.
Et on revient sur cet impressionnant accident hier sur le Tour de France. Le parquet d'Aurillac a ouvert aujourd'hui une procédure judiciaire suite à cet accident. Il a touché 2 coureurs du Tour de France, renversés par une voiture de France Télévisions. C'était à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, de quoi faire enrager ces coureurs. Ils se sont blessés, mais ils pourront vraisemblablement repartir. Quoique le premier a reçu 33 points de suture à la jambe. Oui, effectivement, c'était quand même assez grave cet accident. Auguste Girard, vous êtes avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie d'être en direct. Vous avez dirigé l'équipe Sylo-Ofina dans les années 80, alors vous en connaissez quelque chose du Tour de France. Vos coureurs ont remporté 4 victoires d'étape à l'époque. Vous avez aussi dirigé le Tour de Suisse, donc vous savez ce que c'est que d'organiser un tour. Est-ce qu'il y a trop de voitures et de motos sur ce Tour de France ?
Il y a trop, bien entendu. On parle depuis plusieurs années du point de non-retour, faut-il aller plus loin, faut-il venir en arrière, ça me semble bien difficile. Je pense qu'on a vraiment atteint un sommet en ce qui concerne la participation des véhicules suivant la course et surtout au niveau de la course. Bon, il est vrai que depuis très longtemps, les organisateurs avec les commissaires qui gèrent le contrôle sportif de la course limitent les véhicules à la hauteur des coureurs. Bon, enfin, l'accident qui est arrivé hier à peu près 40 km de l'arrivée, tout simplement un accident inadmissible en ce qui concerne le comportement du chauffeur de cette voiture de France Télévisions.
Oui, là, il a pris, lui, des risques. Est-ce que ça, c'est une piste, peut-être, Auguste Girard ? Parce que effectivement, c'est le conducteur. Il est sanctionné, d'ailleurs. Il est exclu du tour, évidemment. Mais est-ce que c'est ça, le problème ? Et c'est que ces conducteurs, je ne sais pas, ils devraient avoir un permis spécial ou on devrait tester leur capacité avant qu'ils puissent conduire sur le tour.
Moi, je crois savoir que les organisateurs du Tour de France, qui connaissent bien leur métier, font attention à qui ils accordent les licences pour suivre le tour et piloter des journalistes en l'occurrence. Dans le Tour de Suisse, lorsque j'étais directeur sportif du Tour, j'avais exigé que, par exemple, tous les véhicules qui conduisaient des VIP, ainsi que des véhicules de presse, soient vraiment des anciens coureurs qui connaissent, qui sentent, si on veut, le comportement des coureurs sur la route. Et ça, lorsque l'on a fait du cyclisme à ce niveau-là, on ne commet pas certaines fautes au volant de la voiture. Je crois savoir que dans le Tour de France, c'est quand même des pilotes sérieux. Ouais, là, le conducteur a fait, je veux dire, une erreur inadmissible. On ne le fait jamais. Il s'est retrouvé, j'ai vu ça à la télévision à 2-3 reprises, puisque c'était repris en ralenti. Il s'est trouvé serré par cet arbre sur la gauche de la route. Et là, il doit bloquer. Il doit, à la limite, excusez-moi du terme, il doit vraiment s'empaler dans l'arbre s'il ne peut pas faire différemment. Mais jamais, jamais, un pilote doit faire cette vague contre les coureurs. C'est absolument inadmissible.
Auguste Girard, pour conclure, vous mentionnez vous-même votre expérience de directeur de Tour de Suisse. Vous disiez, moi j'imposais que ce soit les cyclistes qui prennent le volant. Est-ce que le Tour de France, vu l'enjeu médiatique énorme, les revenus qui se jouent à ce niveau-là, n'ose pas peut-être prendre ce genre de sanctions, n'ose pas prendre des décisions comme la vôtre ?
Non, mais je crois qu'ils le font à peu près. Peut-être doivent-ils être un peu plus souples vis-à-vis de partenaires comme France Télévisions, je ne sais pas. Je ne veux pas les accuser, je ne suis pas au courant de la manière dont ils sélectionnent leurs pilotes. Je dois dire que dans le Tour de France, en effet, la densité des véhicules suiveurs est nettement supérieure à celle du Tour de Suisse. On peut dire qu'il y a peu d'accidents, et il faut être clair, c'est rare. Mais bien sûr, l'autre jour, une moto...
Oui, la moto photographe,
ça va pas, non, mais c'est pas normal. Et surtout dans cette situation-là, j'aurais dit dans une situation vraiment de crise, on peut dire, où lorsque tous les imprévus se mêlent les uns aux autres, les événements s'accumulent, l'accident, on sait que ça arrive, et ça arrive. Mais là, il n'y avait aucune pression, ni de l'arrière d'un groupe qui revenait, ni de conditions atmosphériques anormales lors de cet accident de ce véhicule. Et pour moi, ce chauffeur, je ne sais pas s'il est expérimenté ou pas, je ne connais pas la manière dont il était sélectionné pour piloter ce véhicule, mais il a commis une erreur extrêmement grave, ce coup de volant sur la droite.
On a bien compris, Auguste Girard.
Ça ne peut pas se faire.
Oui, je vous remercie, on a vu aussi les images. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée.
Bonsoir.
Un projet un peu spécial ce soir au Festival Jazz de Montreux, en hommage au chanteur américain Tom Waits, ou plus exactement des artistes de renom qui se sont penchés sur un de ses disques les plus mythiques, Rain Dogs, un chef-d'œuvre publié en 1985 et qui continue d'influencer bon nombre de musiciens. Mais au fond, Alain Croubalion, n'est-ce pas étonnant que Tom Waits soit encore un artiste toujours aussi en vogue ?
Oui, d'autant plus que Tom Waits n'a jamais vraiment connu le succès populaire, c'est-à-dire c'est jamais devenu une grande star internationale dans le sens où on l'entend pour des musiciens comme U2 ou ainsi de suite. Des musiciens comme Keith Richards et Rolling Stones, par exemple, ont les yeux qui s'illuminent lorsqu'ils parlent de Tom Waits. Mais le projet de ce soir tourne autour du disque Rain Dogs. C'est un disque particulier parce qu'il est l'un des premiers disques qui ouvre le monde du rock à des éléments aussi disparates que la polka, le cabaret allemand, le jazz, la poésie de la Beat Generation, et introduit des instruments étranges comme des orgapompes, des marimbas et des mégaphones. Aujourd'hui, tous ces éléments semblent aller de soi dans la musique rock, mais ce n'était absolument pas le cas en 1985. En ça, Rain Dogs était un disque visionnaire. They travel on the pipeline, they
tangle to their sword. Alors, Tom Waits ne sera pas sur scène ce soir, mais qui va chanter alors ?
Alors on verra le fils de Jacques Higelin, Arthur H, qui est probablement le plus waitsien des chanteurs français, mais aussi Steph Camille Carlens, qui a débuté comme bassiste du groupe belge Deus, avant de devenir le Captain Beefheart de Belgique. Il y aura aussi les incroyables Tiger Lilies, un groupe londonien qui est surtout actif dans le théâtre et qui se sert autant chez Kurt Weill que dans la musique de cirque. Mais surtout, la soirée a été produite non pas par le Montreux Jazz, mais par un monsieur qui s'appelle David Coulter, qui a travaillé avec Tom Waits sur sa pièce la plus connue, The Black Rain. Et le spectacle était sur scène hier soir à Lyon, donc celui sur Rain Dogs. Il sera après-demain à Londres, puis se retrouvera en Hollande, puis à Paris en novembre.
Et Tom Waits, c'est toujours dans l'air du temps ?
Ah oui, alors j'ai posé la question aux Tiger Lilies, pourquoi ils font ce projet? Ils trouvent simplement qu'il écrit de magnifiques chansons. C'est une explication aussi. Tom Waits a toujours poursuivi un but personnel, très musical, sans se laisser distraire par les sirènes du show business. C'est à la fois une chance et un sacerdoce. Le parallèle avec les artistes de ce soir est que, comme Tom Waits, s'ils avaient dû compter sur l'industrie du disque pour survivre, ils seraient morts depuis longtemps. C'est le cinéma qui a permis à Waits de survivre. Plus exactement, Francis Ford Coppola, qui lui a demandé de signer la bande-son du film One from the Heart en 1982. Tom Waits avoue que c'est cela qui lui a permis de continuer, et sans se vendre corps et âme.
Et voilà, c'est sur ces notes qu'il va falloir se quitter. Alain Croubalion, merci d'avoir été avec nous quelques instants. Bonne soirée. Et c'est des notes qui nous amènent à la météo de Carole Dubuis.
Une crête de haute pression protège notre pays du mauvais temps. La journée a été estivale avec un mercure généreux. Demain, c'est reparti pour un temps bien ensoleillé, un azur turquoise et un thermomètre qui sera audacieux. 29 à 32 degrés sont attendus en plaine. Il faudra profiter de ce beau temps. En seconde partie de journée, déjà des nuages d'altitude envahiront le ciel. Ils seront les messagers d'une perturbation qui arrivera mercredi sur nos régions. Des orages pourraient éclater dans la nuit de mardi à mercredi. Ponctuels en montagne, ils seront plus nombreux et violents dans les Alpes valaisannes. Ils pourraient aussi sévir dans les Préalpes. À proximité de ces foyers orageux, de fortes rafales pourraient se manifester. Mercredi, le ciel restera bouché toute la journée. D'intenses précipitations sont prévues avec des orages sur l'ensemble de nos régions. Face à ce mauvais temps, le mercure fera la moue. Il affichera 21-24 degrés en pleine au maximum.
La météo avec Crédit Suisse,
la Fondation Pierre Giannada
et son exposition Claude Monet.
Infotrafic RSR.
Toujours un bouchon à la jonction de Montreux en raison de l'affluence au Montreux Jazz Festival et toujours la présence d'un bidon en plastique sur la chaussée à l'approche de l'aire de service du Grand Saint-Bernard en direction de Vevey. Enfin des ralentissements sur Genève-Lausanne. C'est la fin de cette édition de Forum. Il est 19h. Bonne soirée.